quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps en Grèce, souvent, c'était à n'y rien comprendre. Une divinité pouvait vouloir à la fois une chose et son contraire. Elle pouvait exterminer les mortels qu'elle disait protéger. Elle pouvait défendre l'amour et propager des guerres, demander des sacrifices et les refuser, exiger du sang humain et poursuivre de sa malédiction ceux qui le répandaient. Il y en a une qui était championne dans ses sautes d'humeur et dans ses incohérences. La très belle, très féroce, la tendre et massacreuse, preneuse et donneuse de vie, amie et d'un seul coup ennemie, Artémis, la Diane des Romains, la redoutable déesse de la chasse.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Marcel Detienne.
Ce qu'elle aime chez les chasseurs, c'est qu'ils respectent les règles du monde de la chasse. Et si un chasseur vient à tuer une haze pleine ou à commettre des excès dans la destruction des bêtes de la forêt, eh bien, Artémis, à ce moment-là, se venge.
Mieux valait ne pas croiser sa route si on était cerf, biche, lièvre ou sanglier. Elle était une archère infatigable. Elle tuait, tout en prenant plaisir à la compagnie des animaux. Quand elle partait chasser, et qu'il lui prenait l'envie de lancer ses flèches qui font pleurer, les crêtes des montagnes frémissaient, les forêts ombreuses criaient sous les hurlements des bêtes tuées, terre et mer frissonnaient. Et puis, contente d'elle, Artémis, accompagnée de ses chiens, déposait son arc et allait danser joyeusement avec ses jeunes et belles compagnes. Vierge splendide et déterminée, tueuse de tout être masculin qui aurait sur elle un regard indiscret ou même involontaire, elle semblait repousser les hommes, mais elle était appelée la nourricière des jeunes gens. Il lui arrivait d'aider les jeunes mâles dans leur croissance physique. Elle leur donnait de la force, de l'énergie combattante pour qu'ils remportent la victoire dans un concours sportif. C'est ce qui est arrivé à un certain Alexidamos, un lutteur, qui, grâce à Artémis, fut vainqueur aux Jeux de Delphes, alors qu'il avait perdu à ceux d'Olympie, à cause de mauvais arbitres, pensait-il. La déesse lui a donné la force et la rage de vaincre. Artémis était l'ennemi acharné du mariage, chaste à jamais. Mais elle se précipitait, généreuse et bienfaisante, pour aider les femmes mariées quand les prenait la souffrance des accouchements. Elle ne voulait pas d'enfants, mais elle les aidait à naître. Et puis, quand elle le voulait, il lui arrivait d'abréger les souffrances de ces femmes en décochant une flèche, sans prévenir. D'une femme morte en couche, on disait qu'Artémis l'avait tuée. Parfois, on disait que cette flèche finale était douce. Elle était à la fois sauvage, agressive dans sa guerre contre les bêtes et contre les humains, et apaisante, apportant la délivrance. Elle pouvait être salvatrice et donneuse de victoire à la guerre, même quand le salut passait par des violences extrêmes ou des chemins inconnus et nocturnes. Encore une divinité borderline, à sa manière de grande chasseresse, d'archère infaillible. On la redoutait et on l'adorait, on l'espérait. Son temple à Éphèse était gigantesque. Paradoxal, contradictoire, elle embarrassait visiblement les Grecs anciens qui ne cessaient pourtant d'avoir recours à elle. Les poètes disent sur elle tant de choses contrastées. Artémis ne cesse de prendre le contre-pied de tout ce qu'on croit savoir.
Muriel Sack.
Artémis, c'est vraiment le modèle de la femme libre parce qu'elle choisit sa vie en fonction de ses désirs, en fonction de ses goûts et pas des stéréotypes qu'on lui impose. Elle est incroyable. Elle n'a pas envie d'aller habiter sur l'Olympe. Elle n'y va pas. Elle est extrêmement féminine, mais elle n'est pas du tout dans la séduction, comme sa tante Aphrodite, justement. Elle n'est pas dans les colifichets. Elle a une bande d'amis qui court dans les bois avec elle. Elle court plus vite que les garçons. Oui, et alors ? Enfin voilà, c'est magnifique.
Pour s'y retrouver un petit peu, peut-être faut-il suivre tout simplement son histoire. Elle est la sœur d'Apollon. Les deux divinités sont indissociables, très semblable et très différente. Elle est donc, comme Apollon, la fille de Zeus et de Leto, qui n'était pas la femme légitime de Zeus, mais qu'importe. Parfois, Artémis est la sœur jumelle d'Apollon, et ils seraient nés tous les deux sur la petite île de Délos, île perdue, insignifiante, où Leto, enceinte de ses deux enfants, aurait fini par accoucher. La femme légitime de Zeus Héra, avait par jalousie fait en sorte que tous les lieux prestigieux de la Grèce interdisent à Leto d'accoucher chez eux. Heureusement, il y a eu cette île inconnue, Délos, qui est ensuite devenue très célèbre. Parfois, Artémis est née bien avant Apollon. Elle aurait eu le temps d'apprendre les gestes des sages-femmes et c'est elle qui aurait aidé sa mère Leto à accoucher d'Apollon sur l'île de Délos. On ne sait pas. Puis, Artémis grandit. Très vite, elle fait tout pour ne pas être comme son frère Apollon. Ils auront beaucoup en commun. L'arc qui tue, la danse, la beauté et la cruauté, les courses à travers le monde, mais dans des domaines totalement différents. Artémis ne veut pas être un Apollon féminin. Elle choisit sa voie dans les montagnes, loin des civilisations bien établies. Un poète nous raconte ses années d'apprentissage, ses choix, ses errances. C'est Callimaque de Cyrène. Il a vécu au 3e siècle avant notre ère, dans la grande ville d'Égypte fondée par Alexandre le Grand, Alexandrie. Une sorte de New York antique, ville cosmopolite, effervescente. Ce Callimaque avait accès à tous les écrits, à toutes les traditions grecques sur les dieux, les héros, sur tout. Il était en charge de rédiger le catalogue de l'immense bibliothèque d'Alexandrie. Heureusement, il est là pour nous aider à nous repérer. Poète, il a écrit des hymnes. L'un d'eux est consacré à Artémis. Tout de suite, dès le début de son poème, Callimaque insiste sur l'originalité d'Artémis encore gamine, sur sa volonté absolue de ne pas être comme son frère Apollon, de ne pas être moins que lui. Le poète, en commençant son chant, prend ses précautions. Artémis est redoutable, la déesse est armée. Mais Dieu merci, elle aime aussi le jeu et la poésie.
Nous chantons Artémis, car l'oublier n'est pas faute légère pour un chanteur. Elle aime les flèches et frapper les lièvres. Elle aime aussi les amples rondes de la danse et jouer dans les montagnes.
Jeune enfant, Artémis fait une demande pressante à son père Zeus. Elle définit ainsi ce qui doit lui appartenir. Et d'abord, la virginité, pour ne pas être comme son frère Apollon, l'éternel coureur, pas toujours chanceux.
Nous commencerons par ce jour où, assise sur les genoux de son père Zeus, toute petite fille encore, elle dit au dieu qui l'engendra
« Papa, donne-moi de conserver une virginité éternelle. Donne-moi d'avoir 1000 noms, pour qu'Apollon Phoïbos n'en ait pas plus que moi. Donne-moi arc et flèche. »
Puis Artémis se ravise. Ce n'est pas à son père qu'elle demandera son arc et ses flèches, mais directement aux Cyclopes, ces forgerons impressionnants qui fabriquent la foudre de Zeus.
« Et puis non, père, je ne te demanderai ni carquois ni arc. Tout de suite, les Cyclopes me fabriqueront des flèches et tout de suite l'arme de belle courbure. »
C'est gonflé. Ça veut dire que les armes de la déesse seront comme la foudre de son père Zeus. Elles viendront directement de ceux qui la forgent, sans passer par Zeus. La déesse affirme par là son indépendance, même si elle demande quand même l'accord de son père. Il le lui donnera. Puis l'enfant continue à définir son domaine.
« Donne-moi d'être la porteuse de lumière, de me ceindre jusqu'aux genoux d'une tunique frangée pour que je puisse tuer les bêtes sauvages. Donne-moi un cœur de 60 danseuses, filles d'océan, toutes de 9 années, toutes ignorant encore la ceinture. Donne-moi d'être servie par 20 nymphes, filles du fleuve Amnissos. Elles prendront soin de mes chaussures de chasse et quand j'en aurai fini de frapper lynx et cerf de mes chiens rapides. Donne-moi toutes les montagnes. »
Mais la petite déesse ne veut pas ignorer les villes. Elle n'y résidera pas, mais elle aura beaucoup à y faire, aider les femmes au moment de l'accouchement.
« Attribue-moi une ville ou une autre, celle que tu voudras. Rarement Artémis descendra en ville. J'habiterai les montagnes et ne me mêlerai aux villes des hommes que lorsque, terrassées de vives douleurs, les femmes appelleront à l'aide. Leur porter secours est la fonction que, dès ma naissance, m'ont confiée les Moires. » Car ma mère n'a souffert ni en accouchant de moi, ni en me portant. Sans douleur, elle me fit quitter ses membres chéris.
Zeus, son père, sourit. Il accepte tout. Il lui donne même 30 villes et non pas une seule. Et il prend soin de civiliser cette fille si sauvage. Elle pourra courir les montagnes comme elle le souhaite, mais il lui confie aussi la garde des routes et des ports. Elle sera la déesse des passages. Elle ne restera pas confinée dans ses bois et ses montagnes abruptes, lieux extrêmes battus par les vents. Mais elle, l'éternelle marcheuse, l'errante, elle aidera les humains à franchir les limites, sur terre par les routes qu'elle surveille, et les aidera à franchir le seuil entre la terre et la mer périlleuse. Furtive, rapide, toujours vierge, jamais vaincue, jamais soumise, Artémis n'est pas affectée par les événements qui normalement transforment les existences, les mettent en péril. Elle aidera les humains à franchir les étapes de la vie, étapes critiques où tout peut basculer, de la naissance à l'âge adulte jusqu'à la mort, que parfois donnent ses flèches. Toujours vierge, inchangée, elle ne connaît pas ses étapes pour elle-même, elle ne subit pas ses crises. Elle se faufile en bonne chasseresse, court toujours, indemne, inébranlable. Elle porte en elle la force première des bêtes qu'elle aime, qui l'accompagne et qu'elle peut tuer quand elle veut, puisqu'elle est la plus forte. Homère l'appelle la reine des fauves. C'est son pouvoir. Elle n'a pas besoin des dieux mâles, ni des hommes, puisqu'elle tire son plaisir des animaux et des jeunes filles qui dansent avec elle. Quand elle fréquente les humains, femmes ou hommes, c'est pour leur transmettre cette force première des animaux, à l'accouchement, pendant la croissance, pour le passage à l'âge adulte, ou pour châtier ceux qui, par calcul, par ambition, par goût du pouvoir, maltraitent cette force innocente et première, comme les Grecs l'ont fait avec Iphigénie. Nous raconterons cette horrible histoire tout à l'heure.
What will you do when she drinks the sea? Drown her in sorrow or let her be free? When she's upset, all of her heart is cold. What will you do when she eats the moon? Make her return it or give her a spoon? When she is full, all of her heart is warm. The savage daughter who never begs for forgiveness. I always wondered why they all came back for more.
Sur la terre.
Pierre Judet de la Combe évoque Artémis, chasseresse et sage-femme.
Les Grecs, ils avaient un dieu qui était le dieu des frontières, c'était Artémis.
Jean-Pierre Vernant.
Elle prenait en charge, par exemple, les jeunes gens, tout jeunes, parce que les jeunes gens et les jeunes filles ne sont pas encore pleinement des femmes et des hommes. Il faut qu'ils franchissent le seuil, qui est le seuil de l'adolescence, par des initiations. Et c'est Artémis qui est chargé de ça. Alors il faut à la fois qu'elle marque la frontière, que les jeunes soient des jeunes, les adultes des adultes, qu'une jeune vierge ne soit pas une femme mariée, une matrone, mais en même temps qu'elle est là pour marquer la frontière, il faut qu'elle soit là aussi pour permettre de la passer, parce qu'il faut que les jeunes garçons deviennent des hommes et que les jeunes vierges se marient et aient des enfants. Et toute frontière, c'est comme ça, à la fois ce qui sépare et ce qui doit être franchi, qui par conséquent réunit.
Artémis peut donc aider les humains à traverser les épreuves, à affronter les dangers qui ne peuvent l'atteindre. On comprend que dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, elle était assimilée à la lune. L'œil lumineux comme un astre de la fille de Leto, dit Eschyle. Cet œil, la lune toujours pure, émerge des vapeurs les plus sombres de la nuit. De loin, il guide, protège et surveille. Callimaque continue son récit des apprentissages de la déesse. Forte de l'accord donné par son père, Artémis va trouver les cyclopes. Ils se souviennent bien d'elle. Toute petite, à peine 3 ans, elle n'avait pas eu peur d'eux. Elle s'était blottie sur les genoux du terrible Brontès, le tonnant, et lui avait par jeu arraché les poils de la poitrine. Brontès en est encore tout attendri. Artémis promet aux cyclopes de leur offrir la première grande bête qu'elle aura tuée. Il sourit et lui fabrique flèches et arcs. Le dieu Pan, seigneur des bois et des montagnes d'Arcadie, lui donne des chiens. Reste à lui trouver un attelage digne d'elle. C'est vite fait. Au pied d'une montagne, des biches grandioses lui apparaissent.
Un jour, tes chiens couraient avec toi. Tu découvris près d'un éperon du mont Parasion des biches bondissantes. Chose magnifique. Tous les jours, elles broutaient au bord du torrent Anauros, jonché de ses noirs cailloux. Elles étaient plus imposantes que des taureaux. L'or illuminait leurs cornes.
Artémis est prise d'une envie immédiate.
Tu fus à l'instant stupéfaite et tu dis à ton cœur
« Voilà qui pourrait être la première chasse digne d'Artémis. »
Elles étaient 5. Ta course fut rapide. Tu en attrapas 4 sans qu'accourt ta meute. Maintenant, elles tirent ton char rapide.
Une seule a échappé à Artémis. Héra l'a gardée en réserve pour l'un des travaux d'Héraclès, sa victime préférée.
La 5e s'était enfuie au-delà du fleuve qu'est la Dône. Héra en avait eu l'idée. La biche devait être plus tard l'un des travaux d'Héraclès. Le mont Kérinéios l'accueillit.
C'est la biche qu'Héraclès devra poursuivre à la course depuis l'Arcadie jusque dans le Grand Nord. Artémis, qui en une seule course en a attrapé 4, a donc fait 4 fois mieux que lui. La déesse est parée. Elle peut commencer sa carrière. Il y aura des moments très heureux quand elle chasse, quand elle joue et chante avec son cœur de jeune fille. Des bonheurs humains pourront être comparés à ces temps de liesse virginale et divine. Pour les filles humaines, ce sont des temps de suspens, heureux, comme des pauses, des blancs, avant que ne commencent les réalités de la vie sociale d'adulte, du mariage, des arrangements, des naissances. Une innocence provisoire qui sera perdue, une innocence qu'Artémis s'est incarnée perpétuellement. Ainsi, dans l'Odyssée d'Homère, l'apparition de la princesse Nausicaa fait d'elle une image d'Artémis. Et pourtant, il s'agit de mariage, de séduction. Avec ses jeunes compagnes, Nausicaa va au bord d'un fleuve laver son trousseau pour un mariage éventuel et peut-être proche. Une fois le travail en vue du mariage accompli, une fois le repas achevé, les filles jouent à la balle. Le poète compare leur jeu de jeune fille à celui d'Artémis, qui est pourtant l'ennemi du mariage.
Quand les servantes et Nausicaa eurent fini avec le plaisir de manger, elles prirent une balle et jouèrent, lâchant leur voile. Nausicaa, la belle aux bras blancs, commença à chanter pour elle. Pareil, Artémis va par les montagnes, la semeuse de flèches, ou bien sur l'immense taïgette ou sur l'érimante, tout au plaisir que lui donnent sangliers et biches rapides. Avec elle, les nymphes, filles de Zeus qui tient l'égide, jouent dans les prairies sauvages. Le cœur de Leto s'illumine de joie. Plus haut que toutes les autres, Artémis tient la tête et le front, facile à reconnaître, même si toutes sont belles. Pareil, Nausicaa, la vierge insoumise, se distinguait des suivantes.
Ulysse est là, tout près, dans les buissons. C'est un mari possible. Il surgira, réveillé par les cris des filles. Mais Nausicaa n'agira pas comme Artémis, qui tue les mâles qui la regardent. Elle verra Ulysse, nu, hideux au sortir de la mer. Elle sera surprise, mais elle l'accueillera. La noce, toutefois, n'aura pas lieu.
Qui es-tu? Comment t'appelles-tu?
Mon nom. Oh, je ne sais plus.
Cherche à te souvenir. Est-ce que tu te rappelles le nom de ta patrie?
Je me souviens de rien.
Vite, Cléo, Ariane, appelez Calops. Il faut l'emmener tout de suite chez mon père.
D'autres moments dans la vie d'Artémis sont au contraire très violents. La déesse est impitoyable quand on se moque d'elle, ou quand la beauté immuable, souveraine de la virginité, est surprise ou souillée. Le pauvre Actéon, par exemple, en fit les frais. C'était un beau jeune homme, bon chasseur avec sa meute, qui ne rentrait jamais bredouille. Il accompagnait souvent la déesse lors de ses courses dans la montagne. Les poètes ont multiplié les raisons qui ont poussé Artémis à déchaîner sa violence contre lui. L'important était que la déesse ait une bonne occasion d'être vraiment cruelle. Ou bien, version banale, Actéon s'était vanté d'être meilleur chasseur qu'elle. Artémis se vengea. Ou bien Actéon s'était épris de sa propre tante, Sémélée, qui était déjà l'amante de Zeus et allait devenir la mère de Dionysos. Zeus se serait fâché d'une telle insolence et aurait demandé à Artémis de supprimer le jeune homme, ce qu'elle fit. Ou bien encore, lors de l'une de ses chasses, Actéon aurait surpris Artémis au bain, ce qui était plus qu'inconvenant. La punition, en tout cas, fut particulièrement horrible. De chasseur, Actéon devint chassé. Artémis le transforma en cerf. Et les chiens d'Actéon le déchirèrent. La mère du jeune homme, Autonoé, dut fouiller toute la forêt pour rassembler ses os éparpillés. La nymphe Callisto fut aussi une victime. Son nom de la plus belle, Callisto, annonçait sa perte. Artémis l'aimait, la préférait aux autres. Mais Zeus la vit et, comme toujours, l'a voulu. Un jour qu'après une chasse, Callisto s'était allongé sur l'herbe, dans un bois secret, fatigué, la tête posée sur son carquois, Zeus s'approche. Il a pris l'apparence d'Artémis, de la déesse, et commence l'air de rien à l'interroger sur sa chasse, ses proies, sur les lieux où elle a couru. Ému, Callisto lui fait une confidence. Elle dit à la fausse Artémis qu'Artémis est plus grande que Zeus. Et, ajoute-t-elle, tant pis s'il entend. Zeus est amusé, il sourit. Il commence à l'embrasser autrement que ne l'aurait fait la déesse. Elle veut parler, mais il l'arrête dans une étreinte. La tromperie apparaît. Callisto se défend, lutte, mais le crime a lieu. Zeus s'en retourne dans l'éther. Callisto prend les bois, la chasse en horreur. Au bout de 9 lunes, la faute, si on peut dire, ne peut plus être cachée. Alors qu'Artémis et ses filles s'arrêtent au bord d'un ruisseau pour se baigner, Callisto rougit, tarde à se dévêtir et finalement découvre son ventre grossi. Artémis entre en furie, chasse la pauvre fille polluée, devenue souillure. Héra aussi se fâche. L'adultère a été fécond. Un enfant naît, du nom d'Arcas comme l'Arcadie. Héra se venge en transformant Callisto en animal, en ours. Ovide, le poète latin, nous raconte l'histoire dans ses Métamorphoses.
Tu vas le payer, je vais te l'enlever ta figure, qui te séduit toi-même et séduit mon mari, garce.
Elle dit, lui saisit sur le front les cheveux, la couche face contre terre. Suppliante, la nymphe tend les bras se hérissent de poils noirs, les mains se courbent, croissent en ongles crochus, font office de pieds. Admirée jadis par Jupiter, la bouche est défigurée d'un large rictus. Pour que ses prières, ses paroles de prière ne fléchissent pas les cœurs, le pouvoir de parler lui est arraché. Une voix de colère, de menace, pleine de terreur, sort de sa gorge enrouée. Elle garde l'esprit d'avant, le garde encore quand elle est ours, et en un long gémissement témoigne de ses douleurs.
Callisto, transformé en ours, erre, se cache, fuit les autres animaux. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. 15 ans après, son fils Arcas, devenu chasseur, la voit. Elle le reconnaît tout de suite, le fixe des yeux. Il prend peur, veut la tuer. Mais Zeus, Jupiter, quand même, intervient. Il les enlève tous les deux et en fait des étoiles dans le ciel. Zeus, Artémis, Héra, étaient solidaires dans leur violence. Zeus, l'agresseur, n'est pas puni, mais sa victime l'est. L'ordre règne.
Marcel de Tienne.
Artémis a horreur des effusions amoureuses, elle a choisi la virginité et elle s'y tient avec une rigueur extrême. Et elle joue un rôle important dans les initiations des petites filles. Mais ces initiations dessinent le temps très limité où les petites filles passe de leur état d'enfant qui joue avec des poupées à celui de fille nubile. Une fois qu'elles sont, en quelque sorte, tournées vers le mariage, Artémis les abandonne, Artémis les laisse partir. Il n'a plus rien à faire avec elles.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Toi qui rêves au velours des vierges, aux satins innocents, ces jeunes sirènes émergent d'un océan de sang. Regarde-les s'approcher comme légions d'Amazones venues braver les cyclones, jeunes et brillants archers, leurs arcs et leurs yeux bandés, s'aventurant dans des zones inexplorées. Toi qui rêves au velours des vierges, aux satins innocents, ces jeunes sirènes émergent d'un océan de sang. Vois-tu là-bas leurs chevaux courir un vent de folie, la hargne de ces furies leur sortant par les naseaux. Elles se jettent à l'assaut, se ruant à l'agonie au grand galop. Toi qui rêves au velours des vierges, aux satins innocents, tes roms en fleuves ont des berges, aux sables émouvants.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Artémis, la déesse de la chasse.
Artémis ne se contente pas de courir les montagnes et de se protéger. Elle intervient dans les affaires humaines, notamment dans les guerres. Elle ne le fait pas comme divinité belliqueuse, amoureuse des luttes et des massacres, comme l'est son demi-frère, l'odieux Arès, mais toujours comme reine des animaux, comme protectrice de la vie, quand l'extermination menace une ville. Par là, elle peut sauver du désespoir. Ainsi, on raconte qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les habitants d'une ville de Phocide, Hiampolis, près de Delphes, étaient menacés par d'autres Grecs, des Thessaliens nettement plus nombreux. Les Phocidiens étaient désespérés, ils ne pouvaient que perdre et être massacrés. Se fiant à Artémis, ils eurent un sursaut d'énergie et décidèrent de mettre sur un énorme bûcher femmes, enfants, toutes leurs richesses, les statues des dieux, avec ordre donné à 30 hommes de mettre le feu et de se tuer eux-mêmes si les ennemis l'emportaient. L'éventualité de ce sacrifice immense donna un courage inespéré aux Phocidiens. Ils repoussèrent leurs ennemis thessaliens. C'est devenu proverbial. On parlait du désespoir des Phocidiens, désespoir levé par Artémis. Lors d'une autre étape de cette guerre, les Thessaliens étaient encore menaçants. Les Phocidiens, sur les conseils d'un devin, s'enduisirent le visage de gypse, attendirent qu'Artémis fasse briller la pleine lune et entrèrent dans le camp des Thessaliens pour tuer tous ceux dont le visage ne serait pas blanchi. Les Thessaliens s'affolèrent devant ces êtres qu'ils prenaient pour des monstres. Les Phocidiens, à nouveau, étaient sauvés. Les récits de ce genre sont multiples. Contre l'invasion perse, Artémis, nocturne, lunaire, rusée comme une chasseresse, sauva plusieurs fois Athènes et les Grecs. De même que plus tard, Artémis guida la nuit par des chemins détournés la troupe des démocrates athéniens qui était en guerre contre le régime tyrannique installé alors à Athènes. C'est donc la démocratie que la déesse rôdeuse et nocturne aida à sauver. Une histoire saisissante montre ce rôle d'Artémis dans la guerre, contre les Grecs cette fois, au moment où va se déchaîner la guerre de Troie. C'est la triste histoire de la petite Iphigénie, sacrifiée par son père, le chef de l'armée grecque.
Les dieux veulent qu'à la déesse Artémis, maîtresse de ces eaux, soit offerte une victime humaine. Ils promettent à notre obéissance la mer libre et le sac de Troie, à notre refus leur disgrâce. Et cette victime, ils la nomment, c'est Iphigénie. C'est ma fille.
Cette histoire nous conduira au comble des paradoxes qui animent la déesse. Elle a fasciné les poètes, qui la racontèrent de manière différente. Sauf Homère, qui n'en parle jamais, ou bien parce qu'il ne la connaissait pas, ou bien plutôt parce qu'il n'avait rien à faire de l'horreur sordide qu'est le sang d'une fille versée rageusement par son père. Imaginons la scène. Le spectacle est grandiose. Sur la côte grecque, à Aulis, en face de l'île de Bé, les Grecs ont rassemblé une armée gigantesque. Toutes les cités, toutes les populations de la Grèce ont armé des bateaux pour aller attaquer Troie. Homère, dans son Iliade, les a comptés. Il nous dit qu'il y avait 1149 navires de guerre, bourrés de guerriers, de chevaux, de chars, d'armes chamarrées, prêts à partir, et une foule de grands rois, altiers et splendides. Cela ne s'était jamais vu. Les Grecs avaient répondu en masse à l'appel du roi Agamemnon. Il s'agissait de venger le frère d'Agamemnon Ménélas. Hélène, la fille de Zeus, la plus belle femme du monde, l'avait choisie comme mari. Or, avant ce choix, les soupirants, qui venaient de partout en Grèce, avaient juré par un serment solennel qu'ils aideraient le mari choisi, si atteinte était portée à ce mariage. Or, le prince troyen Paris, le plus bel homme du monde, était venu en Grèce chez Ménélas et lui avait enlevé Hélène, non sans emporter vers Troie une bonne part de ses richesses. Les Grecs étaient donc liés par ce serment, sans compter la gloire, le butin énorme, les captives que devait rapporter à chacun l'expédition, tant la ville de Troie était opulente. Les Grecs étaient impatients, frénétiquement avides de conquêtes. Or voilà qu'Agamemnon, selon la version la plus ancienne de l'histoire, commet à Aulis une faute envers Artémis, une faute banale, mais qu'il va payer cher. Lors d'une chasse dans un bois, il tue une biche et se vante d'être meilleur chasseur qu'Artémis, l'idiot. La déesse, comme d'habitude, se fâche. Elle empêche l'armée de prendre le large en envoyant de mauvais vents qui la clouent à terre. Puis Artémis fait savoir par le devin Calchas qu'elle laissera la flotte partir vers Troie si Agamemnon lui sacrifie sa fille Iphigénie. Torturée, déchirée, voyant que les vents ne faiblissaient pas, Agamemnon accepte. Il mène lui-même sa fille au sacrifice.
Tu veux me tuer ? Me tuer ? Non, je t'en supplie, par le père qui t'a vu grandir, ne le fais pas. Je t'en supplie par cette mère qui m'a enfantée dans la douleur et qui souffre en cet instant dans sa chair comme un second enfantement. Tu veux me tuer pour Hélène ? Mais qu'y a-t-il de commun entre ma vie et les noces de Paris ? Comment se pourrait-il que cet étranger fût venu la ravir pour ma mort ? Oh, père, tourne tes yeux vers moi. Donne-moi un regard. Donne-moi un baiser. Que du moins si mes prières ne peuvent te toucher, j'emporte de toi dans la mort ce gage de tendresse.
Là, les récits divergent. Ou bien Iphigénie est tuée net, ou bien Artémis la sauve au dernier moment et la remplace par une biche qui est sacrifié à sa place. Quant à Iphigénie, Artémis l'emporte très loin, vers la Tauride, écrit T-A-U, pays situé au sud-est de la Crimée, dans cette région qui est actuellement au centre d'un conflit sanglant. Quoi qu'il en soit, après ce sacrifice, la flotte peut partir. Les Grecs débarqueront à Troie et au bout de 10 années saccageront la ville. L'extermination, qu'Artémis a normalement en horreur, n'aura pas été évitée. Cette histoire troublait fortement les Grecs. Elle les dérangeait. Que voulait Artémis ? Pourquoi ce sacrifice humain ? Voulait-elle vraiment ce sang innocent ? Ça ne lui ressemble pas. Chaque poète donne sa version et son interprétation. Le poète qui prend le plus de risques dans l'interprétation du sacrifice d'Iphigénie est sans doute Eschyle, le poète tragique, dans sa pièce Agamemnon. Il refuse l'idée qu'il devait trouver trop simpliste d'une faute banale et ponctuelle d'Agamemnon envers la déesse. Il lui faut plus qu'une vantardise imprudente si on veut comprendre comment un père peut aller jusqu'à égorger sa fille. La faute d'Agamemnon, selon Eschyle, doit être énorme. C'est selon lui l'extermination à venir des Troyens, un massacre qui horrifiait la déesse. Eschyle invente alors un événement surprenant, une chasse inouïe, sans règles, qui ne pouvait que révulser Artémis. Les Grecs sont à Aulis rassemblés. Tout d'un coup surgissent deux aigles, l'un est noir, l'autre a la queue blanche. Devant l'armée, ils se ruent comme des chiens de chasse sur un lièvre femelle, une ase. La bête est pleine d'une portée. Les aigles la déchiquettent, la dévorent. Elle et les petits qui sont encore dans son ventre, c'est sanglant. Les rois interrogent le devin Calchas qui a tout compris. Les deux aigles, dit-il, sont les deux Atrides, Agamemnon et Ménélas. Comme l'aigle et l'oiseau de Zeus, cela veut dire que Troie, qui est symbolisée par la hase dévorée, sera prise, dévastée. Les Grecs vont gagner. Ils ont Zeus avec eux, leur guerre est juste. Mais le massacre d'une mère et de sa portée est monstrueux. Il doit se payer. Le devin Calchas annonce aux deux rois Agamemnon et Ménélas que la déesse qui protège les petits des animaux, Artémis, va demander au plus noir, au plus belliqueux des deux aigles de payer le prix. Agamemnon, qui va prendre tant de vies innocentes à Troie, doit payer à l'avance avec la vie innocente qui lui est la plus chère, celle de sa fille. C'est vie contre vie. Le devin Calchas décrit de manière émouvante l'amour de la déesse pour les vies encore fragiles des jeunes animaux, quels qu'ils soient, lions ou bêtes qui courent les champs. Artémis, dans sa bouche, devient la belle. Les tout-petits sont comparés à des gouttes de rosée, à de la tendre brume, encore ténue.
La belle a tant d'amour pour la terrible rosée des lions dévoreurs, et elle plaît tant à la tendre brume des petits encore à la mamelle, nés de toutes les bêtes qui courent les champs.
C'est le royaume de la déesse, la reine des fauves, qu'il soit grand et féroce ou à peine né. Artémis ne peut s'opposer à la volonté de son père Zeus, qui envoie ses aigles vengeurs contre Troie. Ménélas doit absolument être vengé. La ville coupable du rapt d'Hélène doit être détruite. C'est la loi implacable de la justice de Zeus, le dieu souverain. Ce n'est pas négociable. Artémis ne peut donc pas sauver Troie de l'extermination. Elle peut seulement demander qu'un hommage lui soit quand même rendu. Elle demande qu'on la dédommage de toutes les vies qui seront détruites et qu'elle aime, en lui offrant la vie de la jeune fille. Pour elle, c'est une offrande, une consécration et non un crime. Même si elle sait, si elle prévoit que le père, Agamemnon, devra payer en personne pour cet acte terrifiant. Calchas fait cette annonce aux deux rois qui sont effrayés. Il prédit qu'Artémis déchaînera une tempête de vents violents, des vents du nord, pour bloquer la flotte. La tempête se déchaîne. Les rois refusent d'obéir à Artémis. Ils pleurent, frappent le sol de leur sceptre, impuissants. Le temps s'allonge. L'armée bloquée commence à avoir faim. Les bateaux immobiles fatiguent.
Le blocus asséchant, les ventres accablaient l'armée achéenne, qui occupait la rive en face de Chalcis dans les parages d'Aulis, mugissant au reflux de la mer. Les souffles venus du Strymon, porteurs de mauvaises paresses, de faim, de durs mouillages, dérivent des hommes sans clémence pour les bateaux et les câbles, en repliant le temps sur sa longueur, désagrégeaient par usure la fleur des Argiens.
Finalement, Agamemnon cède. Il conduit sa fille devant l'autel et la fait égorger. Il dit au sacrificateur de la tenir comme une chèvre, de la bâillonner. Elle supplie du regard, en vain. La flotte peut prendre la mer. Pour les humains, la mort d'Iphigénie est évidemment un crime qui devra être payé. Calchas a aussi prédit qu'après la victoire sur Troie, viendra le moment de la vengeance. Dans son palais, au moment du retour, la colère qui venge l'enfant attend Agamemnon. Son épouse Clytemnestre le tuera parce qu'il a tué sa fille. La loi de Zeus qui voulait que le prince Paris et sa ville soient punis, ne peut s'appliquer que si celui qui obéit à Zeus, Agamemnon, détruit ce qu'il a de plus cher, sa fille, et par là se condamne lui-même. Une belle réflexion terrible sur le droit, dans son rapport à la violence, sur ce qu'est en fait une guerre juste, expression que l'on entend si souvent aujourd'hui.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle d'Artémis, la déesse de la chasse.
Euripide, quelques dizaines d'années après Échille, suit une toute autre voie quand il reprend au théâtre l'histoire d'Artémis et d'Iphigénie. Dans ses pièces « Iphigénie à Aulis » et « Iphigénie en Tauride », Iphigénie ne meurt pas. Artémis la soustrait au couteau des sacrificateurs et l'emporte par les airs en Crimée, en Tauride. Elle en fait sa prêtresse. Iphigénie a alors un rôle terrifiant. Elle est chargée par Artémis et par le roi de Tauride de préparer la mise à mort de tout Grec qui s'approcherait de cette terre et qui se laisserait prendre. La Tauride est ainsi présentée comme un pays résolument et cruellement barbare, non grec. Le temple d'Artémis, où Iphigénie, la jeune princesse grecque, officie pendant de longues années, dégouline de sang grec. C'est le décor qui est montré au théâtre. Un jour, Oreste, le jeune frère d'Iphigénie, et son ami Pylade arrivent dans ce temple lointain sans se faire reconnaître. Iphigénie n'a connu son frère que lorsqu'il était un tout petit enfant. Un oracle d'Apollon, le frère d'Artémis, a ordonné à Oreste d'aller dans ce lieu et d'y voler la statue de la déesse Artémis pour la porter en Grèce. L'oracle est stupéfiant, dangereux, mais pressant. Oreste, en effet, est pris de crise de folie depuis qu'il a tué sa propre mère, Clytemnestre. Il vengeait ainsi le meurtre de son père, Agamemnon. Les divinités vengeresses lancées par sa mère à sa poursuite ne cessent de le harceler. Le seul remède à sa persécution, lui a dit l'oracle d'Apollon, est de voler cette statue lointaine. Histoire complexe, mais en fait simple, linéaire. Je reprends. Clytemnestre a tué Agamemnon parce qu'il a sacrifié Iphigénie à Aulis. Même si une biche a été substituée au dernier moment à la jeune fille, Iphigénie a disparu. Clytemnestre est en colère. Plus tard, Oreste tue sa mère parce qu'elle a tué son père et il est poursuivi par les Érinies de Clytemnestre qui le mettent dans un état de délire. Il erre jusqu'au jour où il arrive au temple barbare d'Artémis. Tout est donc fait pour que Orès retrouve sa sœur Iphigénie et risque d'être tué par elle, puisqu'elle est devenue une prêtresse sanguinaire d'Artémis. Un beau suspense théâtral est ainsi créé. Les deux amis, Oreste et Pylade, sont effrayés par ce qu'ils voient quand ils entrent en scène.
Pylade, tu crois que c'est là le temple qui nous a fait, depuis Argos, armer un bateau de haute mer ?
Oui, Oreste, et il te faut le croire avec moi.
Et là, c'est l'autel d'où ruisselle le sang des Grecs ?
Oui, et il y a des traînées jaunies, c'est du sang.
Sous les corniches, vois-tu qu'on a accroché des dépouilles ?
Oui, offert à la déesse, des étrangers mis à mort.
Le temple est donc un charnier, bien rangé, avec des restes de Grecs immolés et suspendus. Les deux jeunes gens qui voulaient passer inaperçus se font prendre. Ils sont amenés devant Iphigénie, qui ne les connaît pas. Elle s'apprête à les faire immoler. Elle n'apprécie pas du tout ce rite barbare, mais elle croit Oreste mort. Elle n'a plus aucun espoir de salut, et cela la rend cruelle et lui donne envie de sacrifier ces pauvres Grecs, faute de mieux. Elle aurait tant préféré qu'arrivent devant elle Ménélas et Hélène. Elle les aurait immolés avec plaisir, mais de ce plaisir elle est privée, elle n'est que malheureuse.
Ami, je m'en rends compte, c'est vrai ce qu'on dit. Les malheureux aiment faire du mal, à plus malheureux que soi, ils ne raisonnent plus. Jamais n'est venu un souffle de Zeus, jamais. Pas un bateau qui amène ici Hélène, la femme qui m'a détruite, ou Ménélas pour qu'à leur tour ils paient un juste prix. Ici même, en toute justice, ils auraient connu leur Ulysse comme moi là-bas.
Iphigénie déclare qu'en fait, Artémis n'y est pour rien dans toute cette histoire d'immolation. Artémis ne peut pas vouloir ses rites barbares. Étant une déesse, elle ne peut pas être mauvaise. Artémis est trop pure, pense Iphigénie. Elle ne supporte pas la moindre souillure, et donc certainement pas ce sang humain versé. Ce sont, dit Iphigénie, les gens barbares de Tauride qui lui ont prêté leur propre penchant sanguinaire. Et pourtant, Iphigénie se trompe. C'est bien Artémis qui l'a sauvée des mains violentes des Grecs en l'emportant dans ce pays lointain. Qui sont les barbares ? Les Grecs ou les gens de Tauride ? Cette pièce extraordinaire de Ripide, baroque et sombre, Iphigénie en Tauride, est surprenante. Elle fait aller de surprise en surprise. Le pays de Tauride est barbare. Oui, il n'est pas grec, un pays des morts, avec ses meurtres rituels et ses cadavres. Mais c'est là qu'Iphigénie et Orès vont trouver leur salut. C'est là qu'ils vont l'un et l'autre être délivrés de leur cauchemar. La Grèce ne les a pas délivrés, au contraire. Elle a été le pays de leur malédiction. Iphigénie et Orès vont finalement se reconnaître, céder. Ils inventeront un moyen de fuir en emportant vers la Grèce la statue de la déesse Artémis. La déesse laisse faire. Le roi barbare de Tauride, persuadé par Athéna, leur souhaite bonne route. Euripide cherche à surprendre visiblement. Et si ce pays barbare, dévoué à un culte sanglant d'Artémis, ne révélait pas en fait ce que sont les Grecs qui se croient si exceptionnels, si éclairés, sages et pieux? En effet, que fait Artémis en faisant égorger l'un après l'autre tous ces Grecs au nom de la déesse et en exhibant leurs cadavres? Elle leur fait payer exactement ce qu'ils lui ont fait subir. À Aulis, ils ont tous, sans exception, voulu son sacrifice. Mais pourquoi? Pour la gloire? Pour venger Ménélas? Non. Pour aller tuer et se faire massacrer à Troie en masse, comme le raconte l'Iliade, dans des flots de sang continu. Le temple d'Artémis en Tauride avec ses cadavres leur renvoie leur image. Les barbares, les sanguinaires, ne seraient-ce pas les Grecs? Et Oreste, poursuivi encore par les Erinyes de la mer qui l'a tué, n'est-il pas lui aussi sanguinaire, couvert de sang et souillé? Comme le lui avait prédit Apollon, il ne sera délivré de cette souillure et de cette malédiction que quand il sera passé par la Tauride lointaine, ce lieu improbable, où il frôle de près la mort la plus épouvantable qui soit, une mort semblable à celle qu'il a donnée en tuant sa mère. Il a failli être tué par la main de l'être qui lui est le plus proche, sa propre sœur. Artémis a attiré le frère et la sœur dans ce lieu de mort, lieu extrême, pour qu'ils soient libérés de la violence qu'ils ont l'un et l'autre subie chez eux, en Grèce. À leur retour, la statue de l'Artémis dite de Tauride, désormais implantée dans le pays d'Athènes, conservera pour toujours le souvenir de ce long détour nécessaire par l'horreur et le souvenir de leur délivrance. Artémis devient à Athènes réellement salvatrice, donneuse de vie et de réconfort, pour tous, femmes et hommes, qui célébreront les unes Iphigénie, les autres Oreste. Il aura fallu ce long parcours lugubre que les cultes fondés par le frère et la sœur rappelleront pour toujours. La déesse est rusée. Elle agit dans l'ombre, imperturbable, secrète, là où on ne la soupçonne pas, et brille. Elle est lunaire.
La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ». Elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère. Et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer.
Pour célébrer encore un peu cette déesse, j'aimerais qu'on entende une Artémis d'aujourd'hui, telle que l'a dit le poète qui nous laisse triste depuis qu'il est parti en février dernier, Michel de Guy, dans un poème récent, Nouvelle Lune.
Quand on parlait tout seul, on parlait à la lune. Isis, Sélénée, Artémis ou Diane, ils l'ont mise à 300 400 kilomètres. Parfois la nuit, nous piétinons sur le tapis sa cendre obsolète. Sans aller plus la voir à la fenêtre, la honte me saisit. Galactos Leucothera, l'aimée de Sappho. La Vierge, la vivace et la belle emphatique, plus blanche que la blancheur éclipsant le soleil. La peinture ne pouvait la faire voir en peinture. La croissante, la paupière du dieu, l'ongle de Mahomet, l'écarquillement de la nuit borgne, nombril de l'univers éparpillé, faux de la mort éternelle. Memento.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tessel. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Benoît Marchand. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Philippe Thibault et le mixage par Delphine Baudet. La semaine prochaine, nous parlerons de l'origine des dieux et des choses, le Big Bang divin. Bonne journée sur France Inter.